Deutsche Welle. Droits et libertés.
Karl Marx, né le 5 mai 1818 à Trèves, en Allemagne, est décédé le 14 mars 1883 à Londres. Philosophe, économiste, journaliste, penseur critique, il donnera son nom à la théorie du marxisme, qui fait de lui même un prophète pour certains. Étonnant pour quelqu'un qui a aussi critiqué la religion comme étant l'opium du peuple. Vous l'aurez compris, à l'occasion des 200 ans de sa naissance, nous revenons sur l'influence de Karl Marx jusqu'à aujourd'hui. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Karl Marx compte parmi les Allemands qui ont le plus marqué les 19e et 20e siècles. Et même on peut dire que Karl Marx est sans doute le philosophe allemand qui a le plus marqué l'histoire de la pensée tout court. Il naît à Trèves, au bord de la Moselle, à la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg, en 1818. Karl Marx est un philosophe de la contestation. Avant même d'avoir la soyeuse barbe blanche qu'on lui connaît, le jeune Marx lutte en faveur du progrès social et s'oppose à l'idéologie dominante de son époque, ce qui lui vaut d'ailleurs de devoir partir en exil à Paris, puis à Londres. C'est en Angleterre, en pleine révolution industrielle et en plein essor du capitalisme, qu'il étudie de près la condition ouvrière. La grande vision de Marx est que ce système capitaliste, encore minoritaire géographiquement et socialement à son époque, va se développer dans le monde entier. Pour mieux comprendre la pensée de base de Marx, écoutez ce résumé réalisé pour Arte par Pierre Besbach et Delphine Penet.
Marx, célèbre barbu, a théorisé, entre autres, la lutte des classes. La lutte des classes, c'est quoi ? D'un côté, il y a les capitalistes. Leur argent est investi dans les moyens de production. Usines, machines, matières premières, force de travail. De l'autre côté, il y a les ouvriers. Ils sont la force de travail. Pour Marx, les marchandises produites ont une valeur supérieure à celle des moyens de production utilisés. C'est la plus-value. Cette plus-value se transforme en profit une fois la marchandise vendue. L'argent tiré de cette vente se décompose donc en deux parties. La première, c'est le salaire qui permet de payer les ouvriers. L'autre est le profit, qui rémunère le capital et les capitalistes. L'intérêt des ouvriers est d'augmenter le salaire, ce qui réduit le profit. L'intérêt des capitalistes est d'augmenter le profit, ce qui réduit le salaire. Ces intérêts antagonistes peuvent-ils s'accorder? Selon Marx, non. Car si les capitalistes l'emportent, les ouvriers se retrouvent dans la précarité. Leur pouvoir d'achat baisse, ils ne peuvent plus acheter. C'est la crise. Si les ouvriers l'emportent, alors le profit diminue. L'usine, pour rester compétitive, remplace l'homme par la machine. À court terme, ils gagnent en productivité et engrangent du profit. Mais les ouvriers se retrouvent au chômage et ne peuvent plus acheter. À long terme, c'est aussi la crise. Bref, dans les deux cas, c'est pas de la tarte.
Dans les usines, les ouvriers sont exploités sans vergogne. C'est aussi pour eux que Karl Marx publie en 1847 le Manifeste du Parti communiste. Écrit à quatre mains avec son compagnon de lutte, Friedrich Engels, les deux penseurs réclament les mêmes chances pour tous et appellent à l'union des prolétaires du monde entier. C'est par cet ouvrage qu'une nouvelle pensée internationaliste se propage sur la planète, le communisme. Pour le politologue Richard Löwenthal, cette idéologie devient même davantage qu'une simple lecture critique de la société.
L'influence historique de Marx repose sur un lien unique entre ses constats scientifiques et la vision utopiste des pionniers du mouvement ouvrier qui, dans leur enthousiasme, ont fait une sorte de religion pour ici-bas. Or, une idéologie qui remplit les fonctions d'une religion encourt toujours le risque que ses partisans et ses prêtres la rigidifient et la commuent en dogme.
L'autre ouvrage majeur de la bibliographie de Karl Marx est « Le Capital », qui devient la base théorique du communisme, une œuvre qui se veut comme un passage en revue critique de toutes les économies politiques, passées et contemporaines. Karl Marx y critique l'économie comme une science qui serait au service du capitalisme.
L'argent doit circuler, circuler de tous côtés, circuler, circuler pour prospérer.
il faut le diriger, le faire voyager, si vous désirez qu'il prenne de la valeur.
De son vivant, Karl Marx n'a pas vécu de révolution. Il s'engage dans les mouvements sociaux, ceux de 1848 par exemple, mais il ne verra pas la mise en œuvre du marxisme en tant que tel, qui ne devient d'ailleurs idéologie d'État qu'après sa mort dans certains pays. Tous les leaders qui se réclameront plus tard du communisme, y compris en le dévoyant, feront référence au capital. Lénine, Staline, Mao et les autres s'en serviront pour légitimer l'instauration de dictatures totalitaires. Mais Karl Marx ne saura jamais quels crimes ont été perpétrés en son nom, puisqu'il meurt 35 ans avant l'avènement de la révolution russe de 1917. Pourtant, les dictatures sanglantes qui ont fait la loi dans le bloc soviétique et qui continuent sous une autre forme à Cuba, en Chine en Corée du Nord, aujourd'hui encore, ont jeté une ombre négative sur le nom de Karl Marx, qui commence seulement maintenant, près de 30 ans après l'effondrement du bloc de l'Est, à être réhabilité. Martin Endres, sociologue à l'université de Trèves.
La fin de l'époque des extrêmes, comme un historien a baptisé le XXe siècle, a permis de considérer Marx d'un œil nouveau après 1989. C'est le moment où l'on a commencé à réétudier le potentiel des analyses de Marx sans être perturbé par la concurrence entre les deux grands systèmes politiques.
L'homme Karl Marx était non seulement un théoricien doué, mais c'était aussi un écrivain de talent. C'est ce maniement d'un verbe clair, compréhensible, pour exposer sa pensée qui a fait de Marx un classique étudié dans toutes les universités. Ernst Bloch, philosophe, se souvient.
Aux alentours de 1920-1925, être marxiste était considéré comme une sorte de preuve d'intelligence. Pour un étudiant, il fallait connaître Marx pour être pris au sérieux.
Les analyses systémiques proposées par Karl Marx sont toujours actuelles. Elles permettent encore aujourd'hui de lire et d'écrire les mécanismes qui conduisent aux inégalités et à l'exploitation de l'homme par l'homme, et ce, pas uniquement en Europe.
Prenons le travail des enfants que Karl Marx a toujours dénoncé et pour l'abolition duquel il a toujours lutté. Eh bien, il existe toujours, notamment en Asie et en Asie du Sud-Est, dans l'industrie textile. On peut encore observer la même chose que ce que Marx décrivait déjà en Occident. On commence par délocaliser la production pour faire des économies. Ensuite, des usines de meilleure qualité se développent, ce qui conduit à une hausse des salaires des ouvriers. Alors, la production à bas coût se délocalise ailleurs, dans des régions plus pauvres, pour faire à nouveau des économies. Ce qui signifie que l'on assiste à une relative amélioration du niveau de vie dans certains endroits, tandis que les conditions d'exploitation des plus pauvres restent similaires.
Il y a deux choses qui restent d'actualité. D'abord, Marx a attiré l'attention sur l'inégalité des chances. Et puis, nous assistons actuellement à l'économisation des liens au sein de notre société. C'est une dynamique du capitalisme que Marx n'avait pas encore observée, mais qui peut être comprise par les analyses qu'il a livrées déjà à son époque.
Les 200 ans de la naissance de Karl Marx sont célébrés sans animosité cette année en Allemagne. On a compris que le nom de Karl Marx ne pouvait être associé sans distinction à tout ce qui a été commis plus tard par ceux qui se réclamaient de sa pensée. La grande crise économique capitaliste en 2008 a aussi relancé la critique du système. Mais écoutez plutôt cette interview réalisée par Hugo Flotatalon avec Jean Vogel. Il est professeur à l'Université libre de Bruxelles et président de l'Institut Marcel Lippmann en Belgique.
Le capitalisme désormais domine le monde entier. Il n'y a plus d'État sur Terre dont on peut dire, dont on peut dire qu'il échappe au marché mondial capitaliste. Mais en revanche, le capitalisme, en tout cas depuis 10 ans, va de plus en plus mal. Il semble qu'il est entré dans un certain nombre d'impasses. Il y a un certain nombre d'économistes contemporains, nullement marxistes, comme l'Américain Wallerstein, qui dit le capitalisme est peut-être entré dans la phase de son, pour les 20, 30, 40 prochaines années, une phase d'agonie mortelle, parce que les ressorts qui lui ont donné son dernier essor, et qui était dans la mondialisation, l'extension de la mondialisation et la dernière révolution technologique, en date, la révolution numérique, ces deux ressorts-là se sont épuisés dans le cas de la mondialisation, puisque désormais, il n'y a pas de nouveaux pays à conquérir, si je peux m'exprimer ainsi, et dans le cas de la révolution numérique aussi, et donc le capitalisme, c'est un système qui se développe, qui accumule, qui stimule une croissance ou qui s'effondre. C'est pas un système qui peut rester stagnant. Donc eux voient la perspective d'une stagnation mortelle pour le capitalisme, et pour avancer cette perspective-là, ils recherchent, je veux dire, certaines analyses de Marx, qui à l'époque de Marx n'étaient pas actuelles, n'étaient pas contemporaines, mais qui peuvent peut-être servir aujourd'hui.
Et c'est en ça, est-ce que c'est selon vous important justement de se pencher encore sur ces textes aujourd'hui? Ils ne sont pas complètement dépassés.
Ils ne sont pas complètement dépassés, mais il ne faut pas les lire comme un esprit religieux lit les textes sacrés. Il faut les lire en réfléchissant au problème du monde contemporain et en disant que ce sont des textes qui, par certains points, éclairent notre situation. Il y a certains textes qu'on pourrait appeler anticipateurs, mais par d'autres aspects, ce sont des textes qui sont dépassés ou qui sont à côté de certains problèmes. Il y a beaucoup de problèmes du monde contemporain que Marx n'a pas pu envisager. Tous les problèmes, je vous l'ai dit, de l'écologie tantôt, les problèmes de la lutte pour l'émancipation des femmes, le problème de la persistance des racismes, de la domination basée sur l'ethnie, la couleur de peau, etc. Ça a peu de place dans son œuvre, alors que ce sont quand même des questions brûlantes dans le monde contemporain. Donc on ne peut pas chercher que dans Marx la réponse au problème.
C'est la fin de ce magazine. Merci à Carsten Knipp, Arte et Hugo Flotatalon pour les sons. Écrivez-nous à français@dw.com pour réagir et abonnez-vous à notre podcast. Salut et à la semaine prochaine.